1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment les distances d'interaction évoluent au cours des temps historiques, ce qui nous amènera à définir un processus de compression espace-temps. Les distances d'interaction ont tendance à s'étendre au fur et à mesure que la vitesse des déplacements s'accroît grâce à des moyens de communication toujours plus performants. On parcourt donc davantage de kilomètres en moins de temps, ce qui donne une impression de rétrécissement de l'espace topographique, d'où le nom de compression ou contraction de l'espace-temps qui est donné au processus accompagnant cet élargissement de la portée spatiale des interactions. Un premier exemple peut en être donné par cette carte synthétique dessinée par Anne Bretagnol qui résume l'ensemble des lieux accessibles en un jour de voyage, en partant ou en allant vers Paris, qui, vous le voyez, se réduisait à une zone à peu près circulaire d'un rayon d'une trentaine de kilomètres encore vers 1700, puis qui s'est étendue progressivement pour parvenir seulement vers 1900, donc alors que les trains irriguaient déjà le territoire, à rejoindre les parties les plus extrêmes comme Perpignan. On peut donner une autre représentation de cette contraction de l'espace-temps sous une forme extrêmement schématique en réduisant la superficie de l'Europe à la surface qui serait accessible à la même échelle avec une vitesse initiale qui serait celle d'un cheval au galop pour les relais de poste, puis qui, vous le voyez, s'est déjà considérablement réduite vers 1850 avec les premiers chemins de fer et les diligences rapides, et puis qui, au fur et à mesure que se développe l'automobile vers 1950, est réduite en dessous des dimensions d'un timbre-poste et qui finit en tête d'épingle avec l'arrivée des déplacements aériens qui, évidemment, augmentent beaucoup la portée des échanges. D'autres types de représentations peuvent être donnés, comme cette carte réalisée par des historiens qui ont estimé en semaines, représentées par des isolignes, à partir de Venise, le temps qu'il fallait à une lettre pour rejoindre son destinataire à partir de cette ville. Et vous le voyez, entre 1500 et 1765, donc dans la période pré-industrielle, il y a finalement assez peu de compression de ce temps de parcours parce que les moyens techniques n'ont pas changé. En revanche, sur cette carte dessinée aussi en isoligne pour la France, en termes d'accessibilité routière, eh bien vers 1700, c'est en jour que se compte l'accessibilité. Suivant les teintes, le plus foncé, c'est un jour, puis 3, 5, 7. Alors qu'à l'heure actuelle, le temps général par tous les modes de transport permet de rejoindre le territoire en moins de 8 heures pour les teintes les plus claires. Une représentation un peu en relief a été imaginée pour figurer simultanément sur la même carte des vitesses de transport différentes. Alain Lostis a ainsi, sur les cartes, proposé de représenter par une échelle en rouge les temps de parcours correspondant aux moyens de transport le plus rapide, comme le TGV, et puis d'imaginer qu'il y a comme un creux, donc une distance plus longue à franchir si l'on circule sur une autoroute à une vitesse moitié moindre, ou bien encore avec un creux plus prononcé si l'on est sur des routes qui ne permettent qu'une moyenne vitesse de 70 km à l'heure. Et cela donne une carte très spectaculaire, comme froissée, qui donne une idée approximative de ce que sont finalement les temps de déplacement et des effets sur le territoire de l'existence de systèmes à plusieurs vitesses qui produisent cet effet que Waldo Tobler, notre génial inventeur de la première loi de la géographie, Waldo Tobler indiquait qu'au cours du temps, le monde se froisse en se rétrécissant. Il donnait donc une image de la compression espace-temps qui a pu être figurée par d'autres moyens, comme ici sur ces cartes réalisées par Colette Covin, qui utilise les coordonnées de l'espace géographique pour les transformer, opérer donc une transformation cartographique en réduisant la taille des mailles si la vitesse est plus grande, ce qui montre quelles sont les parties du territoire qui se trouvent en quelque sorte rétrécies par une vitesse supérieure grâce à l'arrivée du chemin de fer en 1914 ou des trains à grande vitesse pour l'année 2015. En effet, les réseaux ont tendance à introduire davantage de hiérarchie entre les lieux quand ils sont plus performants. Et on a ici sur cette carte des États-Unis un exemple qui, à gauche, montre ce qu'est le réseau des autoroutes avec un petit graphique qui montre une distribution du degré, c'est-à-dire du nombre d'arrêts incidentes à chaque carrefour, tout à fait à gauche. C'est une distribution qui est à peu près normale, qui correspond à un treillis régulier, treillage de l'espace qui a été voulu par des programmes d'aménagement diffusant l'accessibilité à la vitesse autoroutière dans l'ensemble du territoire américain. En revanche, sur la carte de droite, vous avez l'expression des réseaux aériens qui fonctionnent avec des hubs, donc des carrefours très importants à partir desquels on redistribue les autres lignes aériennes. Et là, on a deux graphiques qui représentent en échelle arithmétique à gauche et en échelle logarithmique à droite la distribution du degré de ces carrefour aérien, qui, vous le voyez, est beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus contrasté que celle des nœuds routiers. C'est exactement la même chose sur le réseau Internet, figuré ici de manière assez approximative par des grappes de nœuds extrêmement connectés entre eux, qui, en jaune, sont très au cœur du graphe des relations est connecté avec beaucoup d'autres, alors qu'en bout de chaîne, on a de petites grappes, mais qui sont encore des petits mondes de nœuds très connectés entre eux, à l'intérieur d'un vaste réseau qui est extrêmement hiérarchisé entre les nœuds les plus fréquentés et ceux qui sont un petit peu en bout de chaîne. Nous avons donc vu plusieurs manières de concevoir la notion de proximité pour énoncer des règles d'interaction spatiale, soit par contact ou faible distance, dans le cas par exemple des épidémies ou des innovations agricoles pour lesquelles on veut voir les résultats et donc nous avons des interactions de proche en proche, ou bien par connexité sur un réseau, les nœuds proches étant ceux qui sont reliés ensemble par des liens de bonne accessibilité, ou encore on peut imaginer une proximité par proximité sociale et qui correspond souvent à un processus de diffusion hiérarchique des innovations dont nous allons voir des exemples. Nous avons une première carte qui nous montre la propagation de l'agriculture en Europe à partir d'un foyer mésopotamien démarrant vers l'an moins 8000, moins 9000 suivant les auteurs et qui suit pour aller jusqu'aux confins de l'Europe occidentale plusieurs voies, soit par la vallée du Danube à l'intérieur, soit le long de la mer Méditerranée, soit encore en passant, en contournant par le système de la Volga. Quoi qu'il en soit, cette propagation des pratiques agricoles que l'on repère dans les traces archéologiques, qu'il s'agisse de céramique, de poterie de conservation ou bien de pollen de plantes cultivées, eh bien, elle s'effectue de proche en proche, pas tellement probablement par migration de population, mais plutôt par imitation au contact. L'archéologue Colin Renfrew avait estimé à 30 km par génération la vitesse de propagation de cette innovation qui a fini par gagner l'ensemble de l'Europe. Et une controverse existe aujourd'hui quant à la propagation des langues qui semble en fait avoir été antérieure à ce processus de diffusion de l'agriculture. Je vous montre également un document qui n'a pas grande valeur esthétique mais qui a une valeur historique dans la mesure où il a été élaboré par Thorsten Egerstrand qui donc est l'inventeur de la théorie de la diffusion spatiale des innovations dans les années 1950. Il avait d'abord étudié des innovations qui se diffusaient de proche en proche, qui étaient des innovations de pratiques agricoles, notamment dans plusieurs régions de la Suède. Et il a ici illustré une propagation de type hiérarchique, qui est celle des Rotary Clubs, qui se sont installés en Europe à partir des grandes villes, donc en sautant d'une grande ville à l'autre, éventuellement en se diffusant dans les villes alentours à partir de ces foyers initiaux, et qui donc illustrent un deuxième mode de propagation lié à une interaction par réseau et par diffusion hiérarchique plutôt que par proximité. C'est une autre forme de proximité qui est une proximité sociale. Et cette proximité sociale, on la découvre aujourd'hui sur cette carte qui représente avec une très grande rapidité l'implantation du téléphone mobile dans nos sociétés contemporaines, mais qui, vous le voyez, les teintes foncées représentant l'adoption initiale par plus de 10% de la population de cet instrument qu'est le téléphone mobile, et qui d'abord a concerné les pays les plus développés, les pays les plus riches, et dans les continents les moins riches comme l'Afrique, les parties avec un niveau de développement, un niveau de vie plus élevé, comme l'Afrique du Sud ou une partie de l'Afrique du Nord, par comparaison avec le reste de l'Afrique où l'adoption a été plus tardive, même si vous voyez à quel point le processus de diffusion de l'innovation est aujourd'hui très accéléré par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les siècles passés.